Bonjour à tous. Mesdames, je vous ai souvent vu. Il y a une inquiétude. Je vous ai souvent vu lorsque vous êtes invité à la première bouchée d'un plat que vous appréciez, vous jetez sur un stylo, un papier, et tout de suite demander la recette et gratter la recette sans même attendre la suite. Eh bien, parler du culte au moment du culte, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, nous sommes ici, nous consommons, j'espère que ce n'est pas vraiment le terme, on y viendra plus loin, et de nous poser peut-être une fois la question de nous dire, mais quelle est la recette ? Est-ce que nous sommes dans le bon, le vrai, dans notre culte ? Il y a eu un sondage récent concernant différents pans de la vie de l'Église qui a montré qu'il y avait une grande satisfaction dans l'Église par rapport à nos cultes. Mais je crois que ça ne nous empêche pas de nous poser des questions à son propos, essayer de faire un petit parcours dans la parole de Dieu, rapide, pour nous demander ce que Dieu dit du culte, de l'adoration à lui rendre. Je vous cite simplement une parole de Wayne Grudem, qui a écrit ce gros dictionnaire de théologie systématique, qui dit « Nous avons intérêt à réévaluer fréquemment les différents éléments de nos cultes. La façon dont ils sont présentés rend-elle vraiment, gloire à Dieu ?» En introduction, je voudrais simplement afficher ce texte de l'Épître aux Hébreux, et nous aurons, c'est une prédication qui sera un petit peu thématique, nous aurons plusieurs textes de la parole qui reviendront régulièrement à propos du culte. « Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et je voudrais que nous fassions ce matin un petit parcours sur ce qui constitue les éléments de notre culte, les modalités, comment. Et je crois que ce qui a été dit en introduction par Jo, ce qui a figuré dans nos chants et dans nos prières, constitue déjà en soi une matière abondante de ce que je vais partager là ce matin. La première chose, c'est que glorifier Dieu, nous trouvons dans l'Écriture, c'est que glorifier Dieu, c'est le but fondamental pour lequel nous avons été créés. Le psalmiste David dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. La création tout entière, la créature humaine, lorsque Dieu l'a regardée après avoir tout créé, il a dit « Dieu vit que cela était très bon ». Et il y a là l'expression d'une satisfaction, d'un plaisir de la part de Dieu dans ce qu'il avait fait, ce qu'il avait créé, et par son service obéissant à l'Éternel, par sa soumission à Dieu, par sa communion avec le Père dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient appelés à célébrer cette gloire de Dieu. Nous savons ce qu'il en est suivi, je ne vais pas m'étendre longtemps, mais par la suite et immédiatement après, à Abel par exemple, à Abraham, Dieu a donné le sens d'une expression concrète de leur adoration à Dieu, par des sacrifices. Et ils ont manifesté au travers de ces sacrifices un état d'esprit de soumission et d'adoration de l'Éternel. Et puis un petit peu plus tard, et je dresse là un peu une histoire dans laquelle notre culte s'intègre. Nous sommes dans nos cultes le parti d'une histoire de l'adoration de Dieu. Un petit peu plus tard, donc, Moïse a codifié dans la loi qui lui a été donnée au Sinaï, sur l'ordre de Dieu, le culte qui était à rendre à son peuple. Comment, où ? Et tout cela, par qui ? Tout cela, l'Écriture nous dit aussi que c'était qu'une ombre des choses à venir que nous vivons nous maintenant et que nous vivrons jusqu'en l'éternité. Christ nous a sauvés du déshonneur que le péché avait introduit dans la relation entre l'homme et son Dieu, cette relation d'adoration. Et dans Éphésiens chapitre 1, les versets 1 à 12, je ne vais pas les lire pour ne pas être trop long, l'apôtre Paul, à trois reprises, dit qu'un certain nombre de choses ont été faites pour que nous célébrions la gloire de Dieu. En dix versets, à trois reprises, il dit que nous avons été élus et prédestinés. Nous sommes devenus héritiers. Nous avons été acquis par la rédemption de notre Sauveur Jésus-Christ. Tout cela constamment, et c'est centré dans ce texte pour célébrer la gloire de Dieu. Notre vocation, enfin, et c'est la fin de l'histoire que je brosse en quelques mots, notre vocation sera aussi, lorsque nous serons auprès de Dieu, de célébrer dans une adoration perpétuelle la gloire de notre Dieu, où le Seigneur lui-même sera notre temple. Il n'y aura plus besoin d'un édifice, d'un lieu, d'une assemblée pour le faire, mais l'assemblée de tous ces rachetés avec les anges dans le ciel rendront au Seigneur un culte permanent, et nous verrons alors notre Seigneur face à face et non plus simplement par la foi comme nous le faisons maintenant. Glorifier Dieu, c'est aussi faire la joie de notre Dieu, faire son plaisir. Je vous cite simplement un texte dans Ésaïe, au chapitre 62, verset 5. « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, il y en a ici qui pourraient en témoigner, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Nous sommes appelés à faire la joie de notre Dieu par notre vie, par notre expression d'adoration, la célébration de sa gloire. Mais aussi, et c'est ce qui est formidable, c'est que Dieu, au travers de l'adoration que nous lui rendons, fait aussi la nôtre. Et il a été plusieurs fois souligné dans des textes lus ce matin ou dans des prières dites que notre Dieu remplit notre cœur de joie. Et vous connaissez ce verset que nous chantons régulièrement, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Glorifier Dieu, donc, c'est à la fois faire la joie et le plaisir de Dieu, mais aussi construire le nôtre et notre joie, notre bonheur dans la vie, et ça donne un sens à notre vie, c'est de célébrer la gloire de Dieu dans nos vies. Des adorateurs selon le cœur de Dieu, Dieu en cherche. Dans sa discussion avec la femme samaritaine, dans Jean au chapitre 4, Jésus-Christ a éludé les questions de forme, de lieu, pour simplement recentrer le discours sur le but de Dieu. Il est dit que nous sommes appelés à adorer le Père en esprit et en vérité, et que Dieu recherche de tels adorateurs. Dieu est en recherche, Dieu nous a créés pour cela. Et une première question peut-être qui nous vient à l'esprit, sommes-nous des adorateurs tels que Dieu les recherche? Et c'est un petit peu le but de cette réflexion ce matin, que de nous interroger à ce sujet, et de nous interroger d'une façon beaucoup plus large que nous l'imaginons parfois. Nous avons tendance à être extrêmement réducteurs concernant l'adoration portée à notre Dieu. Et l'Écriture nous montre, je vais lire simplement un verset, mais de nombreux autres en attestent, que notre culte ne se limite pas à un dimanche matin de 10h15 à 12h, mais que rendre un culte à Dieu, c'est véritablement l'offrande de toute notre vie. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Une autre façon de traduire un culte raisonnable, on pourrait se dire c'est purement intellectuel, c'est de rendre un culte spirituel. Le mot semble dans l'Écriture avoir ce double sens. C'est donc toute notre vie qui doit être une célébration de la gloire de Dieu, et pas simplement une tranche horaire dans le dimanche matin. Le terme qui est traduit par rendre un culte à Dieu dans l'Écriture signifie aussi, et souvent traduit le même terme est souvent traduit par servir Dieu tout simplement. Notre service de Dieu dans notre vie quotidienne, notre état d'esprit, notre communion avec lui, notre soumission à lui, nos œuvres pour lui, nos pensées centrées sur lui, tout cela contribue à cette célébration de l'amour de Dieu. Vous avez peut-être déjà vu ce dessin humoristique où une femme, au sortir du culte, se tourne vers son mari et lui dit « Écoute, chérie, tu peux arrêter de sourire, on est sorti du culte. Hein ». Notre culte rendu à Dieu est une continuité de toute la semaine. C'est la semaine précédente et c'est la semaine à venir qui sont notre culte rendu à Dieu. Et ceci, nous devons bien l'intégrer, le fait que le culte communautaire, le culte hebdomadaire auquel l'Église primitive s'est très vite rangée, et dès le livre des Actes, au chapitre 20, on voit que c'est le premier jour de la semaine qui a été choisi pour cela, pour la fraction du pain et rendre un culte à notre Dieu. Ce n'est en fait qu'une expression concentrée dans une tranche de temps et d'une manière communautaire, de ce que chacun d'entre nous a vécu pendant cette semaine avec son Seigneur. Ça implique que notre culte, nous nous y préparons pendant toute notre semaine et nous venons simplement ici exprimer ce que nous avons déjà vécu et ce que nous vivrons la semaine suivante. Dans l'Ancien Testament, les textes sont nombreux de la part des prophètes qui ont sévèrement repris le peuple parce qu'ils avaient transformé ce culte donné à l'Éternel, cette célébration de la gloire de Dieu dans le quotidien de tous les jours, dans tous les aspects et les pans de la vie. Ils l'avaient transformé en un rituel auquel ils se soumettaient et qui était complètement détaché et de leur vie et de leur cœur. Et dans quelques textes, je lis simplement un texte d'Ésaïe que le Seigneur lui-même avait cité dans les évangiles. Il nous dit, ce peuple, Ésaïe 29, verset 13, pardon, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Il y a un grand danger à réduire à tel point notre culte à ce moment de la semaine, à ces instants simplement, qu'ils peuvent devenir une simple tradition, une simple habitude à laquelle nous nous soumettons, complètement déconnecté de la réalité de notre vie spirituelle. Et je crois que c'est important à retenir cela, parce que Dieu veut que véritablement notre culte soit la continuité de notre vie tout entière. Le culte, qu'est-ce qu'il est en fait? Si je peux donner une définition, il est une réponse en acte de reconnaissance d'un cœur rempli de la révélation de la majesté de Dieu, de sa sainteté, et de toutes ses œuvres. Rendre simplement à Dieu ce que lui-même a mis par le Saint-Esprit en nous, de la connaissance que nous avons de lui, de l'intimité que nous avons de lui et de ses œuvres. Nous venons rendre gloire à Dieu en lui exprimant simplement ce qu'il a placé dans notre cœur. Le culte n'est pas fait d'abord pour recevoir. Bien entendu, l'Écriture nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans un autre contexte. Et c'est vrai, je crois, pour le culte également. En venant donner à Dieu, nous recevons. Mais la finalité première est de venir apporter quelque chose à Dieu. Et dans ce sens, des expressions comme « je viens assister au culte » ou « je viens suivre le culte » n'ont pas véritablement de sens par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce qui a de sens, c'est de dire « je viens rendre un culte à Dieu ». Je viens lui apporter mon adoration. Et il y a quelques années, avec le groupe de jeunes, nous avions fait en forme un peu de sketch, une expression de ce qu'est véritablement le culte, en plaçant un vase vide sur cette table. Et ensuite, chacun s'était levé de sa place, était venu y mettre une fleur. C'était une belle expression de ce qu'est le culte. Nous venons apporter à Dieu les fleurs de notre adoration, le sacrifice de notre louange, parce que Dieu y prend plaisir, parce qu'il est touché, sensible à cela. Et on pourrait se demander pourquoi Dieu est sensible à ça, lui qui a tout, qui n'a besoin de rien. Simplement parce qu'il nous aime et qu'il nous a créés, qu'il apprécie ses marques d'amour envers lui en retour. Le culte, dans un sens, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un show, ce n'est pas un déroulé d'un certain nombre de prestations et au sortir, nous disons « Ah ouais, c'était bien aujourd'hui » ou « c'était Ah ouais, c'était pas ça aujourd'hui, il n'y avait pas de l'ambiance, etc. » Le culte n'est pas ça. Nous sommes ici pour apporter quelque chose au Seigneur. La question que nous devons nous poser, est-ce que le cœur de toute l'Assemblée était vraiment porté vers son Seigneur ce matin? Et si nous répondons oui, c'était un culte qui était agréable au Seigneur parce que c'est ainsi qu'il le définit. Notre ressenti par rapport au culte n'a pas d'importance. C'est le ressenti de Dieu qui compte. C'est de savoir s'il a apprécié ce que nous y avons fait, ce que nous y avons apporté. Et encore Wayne Grudem que je cite ici, qui dit « Peu de choses détruisent plus rapidement une atmosphère d'adoration qu'une prestation qui se plaît à attirer l'attention sur son auteur ou un prédicateur qui met en avant sa propre intelligence ou son talent d'orateur. Nous ne sommes pas ici pour apprécier des personnes, mais c'est la personne de Dieu et celle de Jésus-Christ qui compte dans le culte. Dans l'Écriture, dans le verset que j'ai cité d'Hébreu, dans 1 Pierre, il est mentionné que nous sommes membres, sujets d'un royaume. Et ce royaume, il est défini comme un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes partis d'une œuvre de Dieu qu'il a délibérément accomplie, c'est de réunir un peuple pour l'adorer. Vous êtes, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et c'est des mots qui, dans notre culture, ne sonnent pas, mais c'est un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des prêtres choisis pour rendre un culte à Dieu. Avant, il y avait une caste particulière qui avait ce rôle dédié. Maintenant, nous sommes tous, et vous voyez que ce « vous » est inclusif de chacun, nous sommes tous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est pour célébrer la gloire de Dieu que Dieu nous a tous réunis en un nouveau peuple, au-delà de toutes les barrières des nations. Et dans ce sens, chacun est invité à être acteur du culte. Aucun n'est spectateur d'un culte, aucun n'assiste simplement, mais chacun est appelé à être acteur. Luther disait que chanter, c'était prier deux fois. Alors, il y a des cultes dans lesquels nous prions beaucoup, si nous estimons que c'est ça. Mais nous tenons dans notre assemblée, dans notre famille d'église, à avoir un temps dédié à la libre expression de la louange et de l'adoration. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très très bon, que chacun puisse se sentir cette liberté d'intervenir dans le cours du culte par une prière. Et elles sont chaque fois très riches, très édifiantes, elles réjouissent nos cœurs, parce que nous savons qu'elles réjouissent le cœur de Dieu. Mais il y a peut-être quelques aménagements à faire dans nos façons de faire. Souvent, notre culte est envahi par des tas de choses qui ramènent ce temps à une portion trop congrue, trop réduite. Peut-être que nous ne saisissons pas forcément les occasions, les instants qui nous sont donnés pour prendre la parole par l'expression publique à laquelle toute l'Assemblée peut dire « Amen, oui, j'approuve ce que tu as dit vraiment vers l'Éternel et je m'y associe à cette prière ». Peut-être faut-il que ceux qui prient de façon très régulière s'abstiennent, une fois de temps en temps pour laisser plus de place. Peut-être faut-il que nos prières soient plus courtes dans ce temps. Peut-être que faut-il qu'elles soient plus centrées sur le Seigneur et moins l'expression de nos états d'âme personnels. Peut-être faut-il aussi que ceux qui se sont inscrits dans un silence durable, persistant, et qui sont bloqués peut-être par des timidités ou peut-être ce qui est devenu une habitude que de nous dire « je ne prends pas la parole », se débloquent et demandent au Seigneur de leur donner cette liberté, cette spontanéité pour s'exprimer dans la prière. Nous avons besoin de cette richesse de chacun des membres parce qu'elle manifeste que chacun est acteur de notre culte. Et c'est la vocation qui nous est donnée lorsque Christ a fait de nous ce royaume de sacrificateurs. C'est la personne de Dieu, la personne de Christ, qui sont au centre et non pas l'homme, la qualité de sa prestation. La seule marque que l'Écriture appose à une prière, à une intervention, dans l'Écriture, on le voit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, comme particulièrement dans l'Apocalypse, c'est cet « Amen » final qui est apporté, qui ne juge pas de la qualité de la qualité d'expression ou du contenu même, mais qui est l'association à la prière ou à la lecture prononcée. Il n'y a pas de place pour des applaudissements dans le cœur de notre culte. Il y a une place pour un amen général, enthousiaste et authentique et sincère, après que chacun ait pu exprimer ce qu'il avait sur le cœur à exprimer à notre Seigneur. Ces quelques affirmations que je viens d'énumérer qui tiennent véritablement de la parole de Dieu, et je regrette d'avoir pas le temps peut-être d'aller dans tous les versets qui nous sont donnés, mais je les ferai peut-être figurer dans le PowerPoint qui pourra vous être communiqué. Ces quelques affirmations donc fondent depuis de nombreuses années le sens et le ministère du groupe de musique dans notre Église. Nous avons délibérément voulu que le service de la musique dans l'Église soit fait dans une discrétion, une attitude de service véritablement, de sobriété, d'effacement, de simplicité, qui servent la louange de l'Église et qui ne sont pas le spectacle donné à l'Église. Nous voulons qu'ils accompagnent l'enthousiasme de nos chants, qu'ils nous y entraînent, et par la beauté des harmonies et des mélodies qui sont jouées, ils n'attirent pas l'attention sur eux, mais au contraire que cette beauté, parce que Dieu est sensible à la beauté, ils contribuent à la glorification de notre Dieu. Et c'est important cela, pour ne pas dériver vers des formes de prestations, de louanges, dans lesquelles le public est là, apprécie, mais n'est pas acteur, comme nous venons de le voir, de la louange portée à l'Éternel. Le culte constitue un moment de nos semaines où on entre plus particulièrement et en communauté dans la présence de notre Dieu. Dans l'Écriture, le terme « adorer » peut également être traduit, et il est parfois traduit, par « se prosterner », une attitude qui révèle véritablement l'attitude de cœur. Et chaque fois que des personnes dans l'Écriture se trouvent dans la présence de Dieu, ils sont marqués dans leur attitude adoptée par le respect, la révérence, la solennité, parfois même le silence, l'hommage, la crainte respectueuse de l'Éternel. Et c'est de ces mêmes attitudes de cœur et de comportement que nous devons nous habiller lorsque nous venons rendre un culte à notre Dieu. De telles attitudes ne sont pas compatibles, par exemple, avec la prise de la Sainte-Seine en mâchant un chewing-gum. Quel mélange ! Elles ne sont pas compatibles avec la consultation tout au long du culte de l'écran de son téléphone portable. Et je pourrais citer d'autres choses, bien entendu, mais chacun se sent interpellé en soi-même par rapport à l'attitude adoptée dans notre culte. Mais ce qui est formidable dans l'Écriture, c'est qu'il nous est montré qu'il y a une double atmosphère dans le culte. Il y a aussi cette atmosphère de joie. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient, ils étaient dans la joie. Ils célébraient l'Éternel avec joie. Il y a de nombreux textes, dans Actes au chapitre 2, 42, dans Éphésiens au 5, 19, de tout cœur. Il y avait l'enthousiasme. Et la solennité, le respect porté à l'Éternel n'est pas incompatible avec la joie et l'enthousiasme. Et c'est formidable lorsqu'on peut marier les deux, lorsqu'on peut être vraiment dans la présence de Dieu d'une façon respectueuse, mais en même temps dans la joie et l'enthousiasme pour célébrer notre culte, nos chants et nos prières. Nous pouvons cultiver ces deux marques d'une façon totalement compatible. Le culte, je disais qu'il y a un aspect communautaire. La communion fraternelle faisait partie intégralement du culte de l'Église primitive. Et le temps d'accueil, de salutations fraternelles, de prise de nouvelles les uns des autres, de mise en exposition des activités de l'Église, de la vie communautaire de l'Église, font également partie du culte parce qu'ils soulignent l'aspect communautaire qui est le nôtre. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes une entité que Dieu s'est créée pour célébrer sa gloire tout au long de la semaine, mais particulièrement le dimanche lorsque nous sommes réunis en assemblée. Le culte de la Nouvelle Alliance, l'Écriture nous en donne les ingrédients. De tout temps, que ce soit d'Abel à Abraham, la loi de Moïse, à qui Dieu a donné les ordonnances cérémonielles, les lieux, le tabernacle, son plan, plus tard le temple, de tout temps, c'est Dieu qui a fixé le contenu du culte à lui rendre. C'est lui qui le détermine et qui le dicte à l'homme. Ce n'est pas de la libre et totale initiative de l'homme. On appelle ça, et c'est Calvin qui l'a peut-être plus particulièrement parmi les réformateurs mis en avant, le principe régulateur, c'est un terme de théologie, simplement pour dire qu'il n'y a pas de place à des fantaisies dans un culte, mais il y a place à nous porter sur la parole de Dieu et nous dire voilà ce qui fait notre culte pour l'Éternel et de nous y soumettre tout simplement. Et ces ingrédients du culte, quels sont-ils ? Tout simplement, ce que l'Écriture nous dit. J'en énumère quelques-uns, je ne peux pas m'arrêter sur chacun. Les prières de reconnaissance et d'action de grâce. Et on peut rapprocher peut-être de ces prières, de courts témoignages, de l'œuvre de Dieu dans nos vies, non pas centrée sur nous-mêmes, centrée sur Dieu. La lecture de la parole de Dieu, qui tenait une place importante dans le culte de l'Église du commencement. L'enseignement de la parole, les hymnes et les cantiques spirituels. Et l'apôtre souligne « spirituel » pour intégrer une donnée. Il y a du contenu spirituel dedans. Ces cantiques nous conduisent dans la présence de Dieu, nous font percevoir de Dieu des dimensions que nous n'avions peut-être pas soupçonnées, de son plan, de son œuvre pour nous. Il nous en fait toucher la profondeur. Ces cantiques qui ne sont pas comme le disait Mike Evans, que j'avais entendu une fois évoquer, les mantras évangéliques, où trois paroles sont répétées en ritournelle sans... Elles ont un sens, ces trois paroles, mais ça fait quand même un peu réduit pour un cantique. Le Seigneur veut que nous nous attachions à ça, et là aussi dans l'Église, nous essayons, et le groupe de musique essaye de nous entraîner dans l'apprentissage de chants qui ont du contenu, et un contenu qui est conforme à la vérité. Et puis, la célébration de la scène, qui est au cœur du culte de l'Église primitive. Et enfin, pour terminer, et ça a été souligné par Stéphane dans une prédication récente, l'offrande de nos biens pour l'œuvre de Dieu, qui constitue un sacrifice auquel Dieu prend plaisir dans les